Atene, Dominique, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'écho des Carrigues de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur un. C'est Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, ce soir, on va faire la majeure partie de notre émission sur le nucléaire et bien sûr l'antinucléaire et les luttes antinucléaires ainsi que malheureusement la répression. Alors, sous cette antenne, on avait fait récemment une émission concernant Valogne avec quelqu'un du cran de Caen. Ensuite, nous avions eu le maire de du Chefrenne à cette antenne. Maintenant, ce soir, nous avons Yannick de Rennes qui passe en procès mardi prochain, mardi le 9 octobre, donc à Cherbourg, à 10h du matin. Yannick, tu m'entends ?
Oui.
Est-ce que tu peux un peu nous rappeler ce qui s'est passé à Valogne ? Il y a de ça, c'était fin novembre 2011, donc la renaissance quelque part du mouvement antinucléaire, tout au moins on l'espère.
Ouais, on l'espère. Enfin bon, il n'y a pas... Depuis un an déjà... Certes, il s'est passé deux, trois choses pas inintéressantes, mais c'est vrai qu'on est loin quand même de constituer un mouvement capable à faible échéance d'en finir avec le nucléaire, mais bon, quand même, c'est pas rien ce qui s'est passé à Valogne l'année dernière, et c'est pas rien ce qu'essaye de continuer. Et du coup, pour remettre un peu à la mémoire de chacun ce qui s'est passé, c'est que, comme chaque année, depuis longtemps, il y avait ce fameux train Castor, donc train de déchets radioactifs, qui partait de La Hague, dans le Nord-Cotentin, vers Gorleben en Allemagne. Après, c'est des déchets allemands qui faisaient l'aller-retour, quoi, enfin qui venaient se faire retraiter entre guillemets à La Hague et qui repartent quelques années après en Allemagne. Et du coup, manifestement, beaucoup de monde, comme moi, avait eu l'idée que c'était peut-être un endroit où il restait encore une prise possible pour perturber l'industrie nucléaire. Prenant un peu exemple sur les Allemands, ça fait des années que les Allemands, au moment de ces transports de déchets radioactifs, se mobilisent massivement. Et du coup, ces Allemands nous ont montré qu'il était possible de perturber le train-train de l'industrie nucléaire en tentant de perturber ces déplacements de déchets. Voilà, c'est ce qui s'est tenté. La chose a été manifestement bien organisée, puisqu'on s'est retrouvé quand même près de 800. Donc c'était pas rien, depuis le temps qu'il s'était rien passé d'autre que des manifs symboliques à 10, 15, 20 000 personnes en France, qui manifs symboliques qui ne perturbaient en rien l'industrie nucléaire.
Tout à fait. Hein.
Et voilà, il y avait l'idée quand même derrière ça de renouer avec des pratiques qu'ont notamment eu l'occasion de voir le jour au moment d'installation des centrales aux différents endroits où les populations sont mises à s'opposer physiquement aux travaux, aux experts, aux préfets, etc., aux enquêtes publiques. Et l'idée, c'était de renouer avec ces pratiques-là en essayant de faire en sorte que ça puisse être des pratiques populaires, c'est-à-dire de pas non plus s'enfermer et s'isoler dans des pratiques clandestines. Enfin, c'est comme ça que tout le monde l'a perçu, en tout cas, je pense, en venant à Valogne, parce que, voilà, il y a aussi le risque avec la colère toute légitime, la révolte toute légitime après le 11 mars, là, et la catastrophe toujours en cours, d'ailleurs, de Fukushima, on aurait très bien pu voir fleurir nombre d'actions clandestines, et qu'on aurait pu, d'ailleurs, se légitimer, enfin, hein, oui, et là, je sais pas, il y avait aussi l'envie qu'on sorte de l'isolement d'une certaine radicalité, je pense. Quoi.
Oui, il y avait l'envie de l'action directe, collective, quoi. Je crois que c'était ça qui manquait, parce que bon, on l'a bien connu, nous, notre région, avec la lutte de Chaux. Maintenant, c'est bien loin, c'est il y a quasiment 30 ans, hein, maintenant, ça s'est terminé. Et depuis, on peut dire, depuis la fin des luttes de sites contre le nucléaire, il n'y a plus grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, il y a, comme tu le dis tout à l'heure, des rassemblements, des lobbying, du lobbying, des gens qui font du lobbying, et puis c'est tout. Et puis, t'as aussi, toujours pareil, les trucs électoraux, les alliances entre les roses et les verts, bon, voilà, quoi. Bon, inintéressant au possible. Là, je crois qu'à Valogne, ça a quand même été, justement, une remobilisation intéressante. Il y avait 800 personnes, faut-il le rappeler, ça a été une réussite quand même quelque part, puisque le train a mis du retard, je crois qu'il y a eu au départ 4 heures, même plus que ça, de retard.
Ouais, il a fini par retomber sur ses pattes, parce que vu qu'ils avaient anticipé la mobilisation, ils avaient décidé d'avancer d'une journée le départ du train, donc... Mais c'est vrai que sur le jour même, il devait partir le matin, il est parti que tard l'après-midi, et tout au long du trajet, il a été, il a dû éviter des présences sur les voies, et du coup, il a fini par prendre une bonne journée de retard en arrivant en Allemagne. En Allemagne, là aussi, il a été sérieusement perturbé, et voilà quoi. Mais
alors, depuis la reprise du mouvement anti-nucléaire, enfin d'un petit mouvement aujourd'hui, il y a la répression qui tape fort, c'est moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'il y a la répression judiciaire, mais aussi la répression sur le terrain. On l'a dit sur cette antenne au 24 juin, à côté du Chefren, donc à Montabeau, il y a eu 3 blessés graves, vraiment graves. Il y a aussi des tas de gens qui sont intimidés actuellement dans des convocations à la police. Et puis il y en a d'autres comme toi qui passe en procès, donc qui passe en procès mardi. Est-ce que tu peux un peu nous dire de quoi il en retourne?
Ouais, mais juste pour replacer dans le contexte, c'est vrai que nous on a senti que depuis un an là, que ce soit le gouvernement Sarkozy ou le gouvernement Rosaire, là, a manifestement décidé de reprendre en main le Cotentin sérieusement et pas laisser de champ du tout aux opposants au nucléaire. Du coup, en effet, la répression est très forte, et c'est pour ça que notre histoire de procès, on y va pas serein, parce que voilà, tu as parlé tout à l'heure de l'histoire du Chefren de Montabeau le 24 juin. Un camarade a pris 3 mois ferme pour une simple présence lors de la manif. Donc on voit bien qu'il y a le besoin, l'envie, le désir de réprimer, que ce soit policièrement ou juridiquement, de la part de ce nouveau gouvernement. Et donc là, nous, ce qui nous amène au tribunal, c'est les suites directes de ce rassemblement à Valogne. Ils ont, je pense qu'on peut le dire sans trop de prétention, l'opération policière au moment de Valogne, c'est-à-dire l'opération qui devait consister à nous empêcher de perturber le départ du train, a foiré. C'est-à-dire que la plupart des manifestants ont réussi à s'approcher des voies, voire à aller sur les voies, et du coup le départ du train était sérieusement perturbé. Il y a eu des exactions sur les voies qui ont rendu impraticable la voie de chemin de fer pendant quelques heures, voire plusieurs jours peut-être pour les trains de voyageurs. Et du coup, voilà, il y a ce premier acte qui est un échec policier qu'ils sont obligés d'analyser comme tel. Et il y a le deuxième acte qui est une dizaine de personnes interpellées au moment de l'action du rassemblement. Ces gens-là sont passés en procès fin janvier, début février.
C'est ça, oui.
Et ont quasiment tous été disculpés des faits qui leur ont été reprochés, c'est-à-dire de détention de d'armes de sixième catégorie, Opinel, Hachette, bombes lacrymogènes d'autodéfense. Bon, ils ont été d'autant plus disculpés que, en fait, c'est des armes entre guillemets, enfin, ce que la justice appelle armes, qui n'ont même pas été pris sur lors du rassemblement, mais qui ont été pris dans les voitures des gens quand ils se sont fait arrêter, quoi. Enfin, du coup, c'est même pas des armes qu'ils avaient sur place, quoi. En fait, du coup, ça n'a pas été très loin. La plupart donc ont été disculpés et les seules peines qu'ils ont prises, c'est pour refus de prélèvement ADN.
ADN, ouais.
Du coup, là aussi, je pense que de manière assez objective, sans même se mettre dans la peau de la justice et de l'État, on peut considérer qu'il doit y avoir une certaine frustration de leur part de ne pas avoir, alors que l'action a quand même créé un certain retentissement et quelques dégâts, de n'avoir pas su faire payer à ce mouvement-là les conséquences, quoi, du rassemblement. Du coup, ils avaient annoncé qu'il y avait une enquête qui était ouverte suite à cette action. Pendant des mois, on n'a pas eu du tout vent et on s'est retrouvé au mois de mai à être trois personnes, à être convoquées en garde à vue. Et les trois personnes en question étaient ceux qui avaient parlé aux médias pendant les trois jours de rassemblement. Bon, il se trouve qu'on avait assumé de collectivement lors de l'assemblée du camp de parler aux médias. Du coup, il y a trois personnes qui se sont proposées. Et à partir de ça, les enquêteurs, le procureur est en train d'essayer de fabriquer des figures de leader, d'organisateur,
oui,
de chef. Et du coup, il nous accole trois chefs d'inculpation pas négligeables. Hein. C'est complicité de destruction bien autrui par des moyens mettant en danger les personnes, provocation directe suivie d'effets à trompement armé et organisation d'une manifestation publique interdite. Donc voilà, c'est rien que ça. C'est des peines qui peuvent être très lourdes, juste à partir de ces pauvres interviews à BFM TV. Il y a un côté presque gag de cette affaire, quoi, en fait.
Oui.
Mais en même temps, on est obligé de le prendre au sérieux parce que le je pense que les enjeux politiques sont tels aujourd'hui que le gouvernement actuel là a l'air bien disposé à calmer toutes les ardeurs anti-nucléaires en France, quoi, et en train de continuer le développement de l'industrie nucléaire tranquillement avec la caution des écolos. Enfin bon,
oui.
Du coup, on est bien obligé de se méfier, quoi.
Ouais. D'autant plus que je pense que la SNCF s'est pas portée partie civile, un peu comme ça, non?
Si, elle s'est portée partie civile et réclame 163 000 euros de dommages intérêts.
163 000 euros, rien que ça, d'accord.
Rien que ça, voilà. Sachant que la majeure partie du fric qu'elle réclame est liée à des départs de train retardés, et
d'accord,
notamment au départ de train retardé le jour même de l'action, mais retardé pas par nous, en fait, puisque c'est la SNCF elle-même qui, la veille, avait décidé de suspendre le trafic avant même qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit. Et du coup, bien entendu, ils essayent de nous faire payer les billets de voyageurs remboursés par la SNCF pour ce jour-là, le 23 novembre, quoi.
D'accord.
Salut Yannick, c'est Jean-Michel.
Ouais.
Non, je relevais ce que tu disais et
je t'entends de très 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 loin.
Non, ouais, là ça je pense que ça ira mieux.
Ouais.
Donc je te saluais d'abord, hein, d'une part, et puis d'autre part je relevais ce que tu disais et je notais la fonction habituelle de la justice et de la répression, d'isoler, de séparer, de catégoriser, effectivement, de distinguer à l'intérieur de ces 800 personnes qui sont venues, puisque c'est, comme on l'a souligné au début, un mouvement, alors pas de masse, mais en tout cas un mouvement collectif d'opposition nucléaire, issue d'une région particulièrement concernée par ce problème et issue également d'une mobilisation autour des THT et des collectifs type CRAN, donc quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, comme on l'a dit, qui n'est pas quelque chose d'isolé, ce qui est à mon avis le plus intéressant à souligner, comme tu l'as bien dit au début, en faisant la distinction entre des actes qui pouvaient être des actes de résistance non assumés ou en tous les cas non revendiqués, et cette pratique collective-là, cette pratique collective directe. Et donc effectivement, le travail de la justice dans cette réponse-là, c'est effectivement de pouvoir catégoriser les individus et d'isoler des individus pour pouvoir leur faire répondre d'autres choses. Et du coup, quelle réponse va y avoir du mouvement? Comment est-ce que vous envisagez la défense? Et est-ce que il va y avoir une mobilisation autour de ton procès, autour de vos procès?
Oui, il y aura. Enfin, alors après. on a été quand même obligé de prendre la mesure de par rapport à préparer cette défense là, notamment la défense hors du tribunal, prendre la mesure aussi qu'on n'est pas dans une phase très euphorique au niveau du mouvement anti-nucléaire. On peut pas s'attendre là sur la base, en tout cas sur les bases qui étaient posées à Valognes, s'attendre à des mobilisations extraordinaires, mais ça nous paraissait quand même important que le jour du procès à minima apparaisse une solidarité réelle et que les gens se retrouvent du coup devant le tribunal aussi pour dire que voilà, on était tous tout le monde assume ce qui s'est passé là-bas et que on a envie que quelque chose continue et que c'était que le début. C'est toujours difficile de dire ça parce que ça fait longtemps que les collectifs se bougent sur des bases assez radicales, mais en tout cas bon voilà, depuis Fukushima en tout cas c'était le début de quelque chose et du coup il y a un appel qui est fait à se retrouver devant le tribunal à 10h à Cherbourg le 9 octobre. L'idée c'est de que l'après-midi on se déplace, si le procès est terminé, dans un lieu pour essayer de continuer à discuter des suites possibles à ce mouvement, parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous qui étions proches du Cotentin, on sait suite à Valognes, il y a eu la lutte qui continue d'ailleurs sur l'installation des lignes très haute tension dans la Manche, Mayenne, Calvados, Ille-et-Vilaine. Hein. Mais bon, on est bien obligé de considérer que cette lutte est en train de malheureusement se perdre, même s'il y a quelques endroits qui résistent encore, mais la ligne est quasiment terminée. Du coup, je pense que c'est le moment de se reposer la question, de vous concentrer un peu notre haine à l'égard de cette société nucléaire. Et bon, voilà, le procès peut peut-être être une occasion de rediscuter de tout ça, même s'il y en aura forcément d'autres. Tout ne va pas se passer là. Mais en tout cas, je pense que c'est important aussi que cette justice, qui a l'habitude de fonctionner en huis clos et à faire ses petites affaires avec les politiques derrière, voilà, qu'on montre un peu qu'on n'est pas isolé et qu'il y a un peu de monde derrière. Je pense que ça peut peut-être aider à ce que la sentence ne soit pas trop pénible à subir, quoi, même si il y a des chances qu'elle le soit, mais
surtout au niveau financier certainement.
Ouais, hein. c'est la menace est essentiellement là, et c'est vrai que l'état du mouvement antinucléaire sur les bases posées à Valognes est tel que c'est pas évident, si on doit payer 163 000 euros, les trouver comme ça, quoi. Là, il y a beaucoup de solidarité qui s'organise autour de soirées de soutien, tout ça, mais je pense que personne n'a d'autre ambition que d'essayer de payer les frais d'avocat et les frais de justice. Pour l'instant, on espère encore ne pas avoir à débourser plus de fric que ça, quoi.
Ouais. On donnera tout à l'heure d'ailleurs les références pour envoyer des chèques à Rennes. Est-ce que tu peux aussi nous parler, parce que je pense qu'il y a des tas de débats, justement, effectivement, Chefrenne, on peut dire que c'est fini, quoi, et le bois, ces jours-ci, doit être tout à fait démonté, ça doit être repris par RTE, doit être pris par RTE et détruit par RTE. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a l'idée de faire en sorte que le combat anti-nucléaire maintenant s'oriente vers Bure, concernant l'enfouissement des déchets hautement radioactifs. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Parce que Bure, c'est notre région, nous. On a participé à cette lutte qui dure depuis des années. Il y a eu des hauts et des bas. Il semble qu'aujourd'hui, on est plus dans une période où les gens qui restent dans la lutte sont quand même beaucoup plus indépendants par rapport au Parti Vert et à toutes les stratégies de lobbying au niveau des élus qui n'a pas marché, quoi. Est-ce que tu as des infos là-dessus?
Bah écoute, moi, beaucoup d'amis de la Manche et de Bretagne sont allés il y a 15 jours là, déjà, à Bure, un petit festival là, qui avait, il me semble, aussi pour but de préparer l'année 2013, où beaucoup de choses vont se jouer là-bas.
Complètement.
Et c'est vrai que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Ce qui se passe, c'est qu'en 2013 s'ouvre l'enquête d'utilité publique sur le futur site d'enfouissement définitif des déchets. Là, on était à Bure pour l'instant sur un site de laboratoire d'expérimentation. Et donc, à une dizaine de kilomètres de là, on aura déjà prévu d'y installer le site d'enfouissement définitif. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est l'occasion là-bas de reprendre un peu du poil de la bête. Enfin, en tout cas, les échos que j'en ai eus, c'est que même localement, ça a l'air de remobiliser un petit peu les gens. Bon, on est quand même toujours dans un désert rural, si j'ai bien compris. C'est jamais évident. Mais j'ai l'impression qu'en effet, que pour beaucoup de gens qui étaient à Valogne, cette échéance-là est importante et il y a peut-être quelque chose à réussir, d'autant plus que si j'en crois quelques contre-experts rencontrés ces derniers jours, un peu spécialistes des questions nucléaires, c'est que le site laboratoire lui-même est en train d'essuyer nombre d'échecs technologiques sur l'enfouissement des déchets dans cette zone, notamment avec des mouvements de terrain qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, prévu, et du coup, ça semble promettre à peu près la même catastrophe technologique que celle du premier site d'enfouissement en Allemagne, là, sous
la mine
de sel, où en fait, le terrain a tellement bougé qu'aujourd'hui, ils peuvent même plus accéder à proximité des bidons qu'ils ont stockés et que ça commence à... La terre commence à écrabouiller les bidons et du coup, ça commence à fuir de partout. Et manifestement, c'est ça qui se promet à nouveau du côté de Bure. Du coup, on aura même peut-être, malheureusement, comme alliés de circonstances, des scientifiques un peu critiques qui n'ont pas envie de fabriquer une bombe à retardement là-bas. En tout cas, pas de manière aussi éhontée que c'est en train de se promettre. Là. Du coup, bon, mais c'est vrai que je pense qu'il y a, c'est sans doute une des échéances à moyen terme les plus importantes en France. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Il y a l'EPR qui va, dont le chantier est quasiment terminé à Flamanville. Mais bon, on sait très bien que dans des situations comme celle d'un chantier de centrale aujourd'hui déjà bien entamé, il est très difficile d'intervenir pour perturber l'avancée des travaux. À Bure, je pense que quand on est au début d'une histoire comme celle-là, même s'il y a déjà le site expérimental, mais on est quelques-uns sans doute à penser la même chose, à se dire qu'il y a beaucoup plus de choses à jouer, quoi. Mais après, c'est loin de chez beaucoup de gens, je pense, très excentré en France. Mais voilà, il y a les Allemands qui sont pas très loin, je pense aussi assez déterminés à donner un coup de main dans cette histoire-là. Du coup, en effet, 2013, sans doute des choses qui vont se passer là-bas.
Je crois qu'à notre avantage sur Bure, c'est aussi le temps qui s'est passé depuis le début du projet et de la construction du laboratoire et aujourd'hui le projet définitif, c'est-à-dire que les gens ont pu voir l'impact de la société entre guillemets nucléaire sur leur vie et sur leurs relations sociales, c'est-à-dire que l'arrivée de l'ANDRA et de sa politique et de sa propagande a totalement pourri la vie des gens et a totalement pourri les relations qu'il pouvait y avoir entre les gens. Alors à titre individuel et à titre collectif, on y est allé plusieurs fois. Bon, effectivement, quand on était sur des bases radicales, assez rapidement, on se faisait minorer, voire on se faisait jeter. Mais aujourd'hui, ceux qui restent dans la contestation de ce laboratoire, c'est effectivement ceux qui étaient les plus radicaux au départ, puisque tous les gens qui étaient en lien quelconque avec, que ce soit l'association des élus, que ce soit les politiciens professionnels type Vert ou PS, ont tous retourné leur veste à un moment ou à un autre. Et effectivement, voir la capacité de nuisance de la société nucléaire et la transformation, j'allais dire, des relations sociales qu'elle implique. Par exemple, pour donner un exemple, quand on va à Bure dans la Haute-Marne, donc tu l'as dit, c'est un désert rural, il y a 500 000 habitants en Haute-Marne, il y a à peu près, je crois, 4 000...
Non, 500 000 habitants en Haute-Marne, tu sais.
Non, pardon. Non, 100 000 habitants en Haute-Marne, je fourche. Il y a à peine 3500 habitants tout autour. Il y a des communes qui ont accepté le projet et qui ont leur revêtement de route bien faite, puis en plus un éclairage électrique, et puis à côté le village qui n'a pas accepté, qui lui est totalement défoncé, qui subit des pressions de la part du Conseil Général. Donc ce pourrissement, ce truc-là, c'est aussi quelque chose qui vient renforcer l'argumentation des antinucléaires en disant, vous voyez, le nucléaire, c'est aussi une espèce de colonisation des esprits et des relations sociales. Et aujourd'hui, il reste la maison des résistances, là, à Bure, une maison collective, qui est un endroit d'où on peut partir et qu'on peut utiliser pour discuter. Et effectivement, 2013, ça va être un rendez-vous pour pouvoir essayer de se redonner, nous, un autre souffle, un autre moment.
Mmh. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que la situation est particulière, hein, parce que la plupart du temps... la manière dont le nucléaire s'implante dans une région, c'est de manière très massive. Enfin, c'est une centrale, c'est une ligne THT, et c'est un truc qui est là et qui est une cicatrice dans la vie des gens de manière un peu indélébile, quoi. Là, peut-être, en fait, le fait que ça se passe un peu en deux temps, c'est-à-dire que c'est d'abord une site expérimentale qui a, certes, tu dis, un impact social non négligeable, mais pas autant qu'une centrale qui a aussi un impact énorme par l'emploi qu'elle génère et qui fait que le regard critique a du mal à se fabriquer sur une zone où le nucléaire s'est implanté massivement. Là, on peut espérer que les emplois n'étant pas encore complètement là, les gens aient eu le temps, dans une dizaine d'années, de regarder l'horreur que pouvait être l'arrivée du nucléaire dans une région, quoi. Et du coup, voilà, c'est peut-être une chance que ça se passe en deux temps comme ça, en espérant que les gens regardent un peu de près l'horreur, quoi. Ouais. Et qu'ils ne soient pas encore complètement achetés par l'industrie nucléaire. Parce que c'est vrai qu'on le voit bien, nous, sur la ligne THT dans le Cotentin, une fois que la ligne elle est là, même si en effet ça a généré des tensions entre les pour, les contre, et ben, la plupart du temps les contre d'une part étaient très minoritaires et s'en trouvent là complètement abîmés psychologiquement, et soit en ont une dépression terrible, soit même partent, quoi, en fait, ne restent pas là, et du coup tu sens que rien ne peut vraiment se rejouer à cet endroit-là, ou en tout cas très difficilement, quoi. Enfin, c'est et du coup, on perd toujours très très gros quand l'industrie nucléaire s'impose de manière un peu définitive, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah écoute, il faut absolument pas qu'on se quitte avant que de donner les références pour envoyer de l'argent, hein, soutien financier, vous en avez besoin, c'est mon grand plaisir. Alors, déjà, les chèques, c'est à l'ordre de APSAJ. C'est envoyé aux 6 cours des Alliés, 6 cours des Alliés, 35 000 à Rennes. Voilà. Vous pouvez aussi contacter tout ce qui se passe au niveau de la ligne anti-THT, des trucs anti-nucléaires, etc. Il y a des sites qui existent, je crois que tu peux en donner quelques-uns, où on a des informations quasiment sur le procès, par exemple.
Il y a le Stop THT qui existe toujours, qui rencontre de la lutte au quotidien, mais bon, qui est un peu ces derniers temps en déshérence là, mais du coup l'actualité la plus fraîche se trouve encore sur le blog qui existe depuis Valogne, là, Valogne Stop Castor.
Ouais, Valogne Stop Castor. Ouais.
Du coup, on trouve aussi les deux textes d'appel à soutien, dans lequel il y a notamment pour ceux qui souhaiteraient soutenir autrement que par chèque, et ils trouveront le texte sur lequel il y a moyen de payer directement via son compte bancaire.
Oui, il y a un numéro d'IBAN, un code BIC, etc.
Ouais, on ne va pas le donner à l'antenne.
Oui, on ne va pas le donner à l'antenne.
À peu près impossible à noter. Mais en tout cas, il est sur le site Valogne Stop Castor, et voilà, c'est un peu les deux sites qui font état de la lutte dans l'Ouest.
Et est-ce que tu as des infos sur la manif qui est prévue le 13 à Laval?
Ben écoute, on a regardé ça un peu de loin, parce que c'est pas, enfin, j'ai le sentiment, enfin, c'est dur de voir un peu le cheminement de cette proposition, mais elle vient manifestement d'en haut du réseau Sortir Nucléaire.
C'est ça, ouais.
Et bon, voilà, ils sont venus chercher différents groupes dans l'Ouest pour voir si les gens pouvaient l'organiser matériellement. Nous, on a l'Assemblée du Chef Rennes, qui est un poste qui préexiste, enfin qui continue à exister depuis Valogne, donc autour de la ligne, le projet de ligne THT, a décliné l'invitation, au moins pour des raisons pratiques. On n'avait pas du tout la force d'organiser ça, et notamment avec les procès à venir, tout ça, on était plutôt dans ces histoires-là. Et puis aussi, pour nous, on avait envie de rester sur l'identité qui commence à se fabriquer, une position assez radicale de sortir immédiate du nucléaire, de s'organiser par nous-mêmes, et qu'on sentait pas non plus complètement la possibilité en si peu de temps de fabriquer une communauté de vues entre les différentes personnes qui pouvaient s'impliquer dans l'organisation du 13. Du coup, je pense que beaucoup d'entre nous iront faire un tour, mais voilà, sans plus d'ambition que ça. Je sais que c'est aussi pour le réseau Sortir Nucléaire l'occasion de marquer une espèce de solidarité avec les Japonais pour revendiquer une sortie immédiate du nucléaire au Japon et partout ailleurs. Bon, c'est sûr que sur cette base-là, on peut que s'y retrouver. Mais voilà, reste, on n'a toujours pas démêlé quand même. Valonne n'a pas été l'occasion d'en finir avec cette vieille histoire des mouvements antinucléaires et notamment le contentieux que beaucoup d'individus et de groupes peuvent avoir avec un réseau comme le réseau Sortir du Nucléaire qui a misé à peu près toute sa ligne politique sur du lobbying et sur des actions spectaculaires et qui n'a pas fait beaucoup avancer la critique de la société nucléaire et de l'État qui est derrière.
Complètement, d'ailleurs, je lisais encore avant de venir, là, il y a la coordination du antinucléaire du 44. Je ne sais pas si tu Nantes, donc, la région de Nantes, avec une déclaration qui fait 2 pages. Et il y a des tas de choses qui sont dites dans ces déclarations, mais il n'y a surtout pas le mot capitaliste qui est prononcé, surtout pas. Tout est fait pour que, bon, bah, on te propose toujours pareil, la même chose. Il y a des tas de choses qui peuvent être intéressantes. Mais enfin, on ne te parle pas de l'arrêt du nucléaire, entre la décision immédiate. Hein, c'est la décision qui doit être immédiate de l'arrêt du nucléaire. Et pas la revendication, déjà, tu peux toujours décider... que ça va s'arrêter immédiatement, sauf que si t'as pas le rapport de force sur le terrain, ces gens-là ignorent ce que ça peut être un rapport de force sur le terrain.
Ouais.
C'est toujours, ils le placent toujours au niveau institutionnel, quoi, dire, ouais. Au niveau de leur délégation, des élus et tout bazar.
Moi, je garderai en plus en travers de la gorge la manière dont le réseau Sortir du Nucléaire a pu soutenir Valogne, Stop Castor, enfin le rassemblement de fin novembre l'année dernière. Où ils se sont retrouvés le matin même où il y avait les gens qui essayaient de s'approcher des voix, une porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire qui était sur Canal+, et qui, en fin d'interview, qui durait quand même bien une heure, l'émission, n'a rien trouvé d'autre à dire de mieux que c'était une grande avancée, une belle avancée, l'accord PS-Vert pour les élections qui allaient venir, quoi. Et du coup, c'est quand même dur de café, et on pouvait... déjà le savoir avant, mais on le sait encore plus maintenant ce que donne cet accord-là et qu'on se retrouve avec la mine, la plus grande mine d'uranium à ciel ouvert dont le chantier va se lancer au Niger, grâce à Hollande, qu'on se retrouve avec la relance du projet complètement délirant du retour de Super Phénix en France avec ce joli nom d'Astrid. Et que voilà, il semble plus du tout question de diminuer même ne serait-ce que de quelques pourcentages la part du nucléaire dans l'électricité française. Du coup, on voit bien toute la supercherie de ces accords-là et que manifestement, ce réseau-là n'a pas décidé de sortir de ses illusions. Quoi, mais...
oui. Bah, est-ce qu'il le veut vraiment, d'ailleurs? Mais ça serait discutable. Tout à fait, effectivement. Ce qui est regrettable là-dedans, c'est que il peut y avoir des antinucléaires sincères et convaincus qui, malheureusement, en l'absence de mouvement, comme on le dit, ne trouvent pas d'autre solution que de se raccrocher à ça parce que y a rien d'autre. Or, on essaye, vaille que vaille, de toujours essayer de refaire quelque chose, de rediscuter, de réavancer. Donc, il est vraiment plus qu'important, pour ceux qui le peuvent, de se retrouver à Cherbourg et puis d'être derrière toi et les autres, pour que justement ce moment-là, il soit un moment qui soit aussi profitable pour le mouvement, qui soit aussi un moment du mouvement, quoi. Que ça soit pas un moment de répression bête, parce que de toute façon, le terrain de la justice, c'est pas le nôtre, même si il faut se défendre à l'intérieur du prétoire, évidemment, c'est pas question de baisser les bras, il n'y a pas rien à faire, mais de toute façon, c'est pas un moment qui est le nôtre, donc il faut essayer de le retourner en un moment qui soit profitable à l'extérieur, quoi. J'espère que il va se passer des trucs à Cherbourg, quoi. Bon courage.
Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis un an, cette collectivité de lutte qui s'est constituée dans le Cotentin a, elle, en tout cas, fait son deuil de ses illusions, et que c'est déjà ça, de ses illusions électorales et politique hard, et c'est que c'est déjà ça de gagner.
Tout à fait.
Voilà.
Écoute,
en tout cas, pour ceux qui ont la disponibilité pour venir à Cherbourg le 9, n'hésitez pas. En plus, vous serez bien reçus. Il y aura de quoi manger et boire devant le tribunal.
Ce qu'on peut peut-être prévoir, c'est de reprendre au téléphone après.
Bah oui, oui, peut-être, peut-être après, même une fois le verdict tombé, peut-être.
C'est ça, ouais, c'est ça, après, une fois le verdict tombé, pour savoir un
bien
peu,
sûr, pour qu'on suive ça,
pour ça, ça ouais. Faire, là.
Et puis qu'on te laisse pas tomber, qu'on laisse pas tomber, quoi, au contraire. Au contraire.
Bah oui. Okay.
Bon, bah écoute, on te remercie bien, je te prends en antenne, et puis, ouais. Bien.
Bah merci courage. À vous, en salut. Tout cas, de vous faire le relais de ce qui se passe là-bas.
Ouais, de rien.
Un peu d'AZF maintenant, il y a un an, donc, il y a 10 ans, 11 ans, à 10h17, c'était le 21 septembre 2001, donc il y a un peu plus de 11 ans, il y a 300 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé à l'usine chimique AZF, donc une entreprise impliquée aussi dans la fabrication d'explosifs à usage civil et militaire. Le bilan officiel, c'est quand même été au départ de 31 morts. En fait, on oublie de parler des dizaines de décès qui ont suivi les jours de l'explosion. Il y a eu des milliers de décès, des mutilés à vie, des polytraumatisés, des brûlés, des aveugles, des sourds. Il y a eu 50 000 personnes qui souffrent de troubles psychologiques, 27 000 logements détruits, un hôpital, des lycées, des collèges, des écoles, des entreprises endommagées ou dévastées. Il y a eu des milliers de salariés en difficulté, etc. 11 ans après, donc, le 24 septembre, la Cour d'appel de Toulouse a condamné l'ancien directeur de l'usine à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 1 en semi-liberté, pour homicide involontaire et une amende de 45 000 euros. La société Grande Paroisse doit payer, quant à elle, une amende de 225 000. par rapport à ce verdict, 11 ans après, faut-il le rappeler, il y a eu les avocats et les associations de défense des victimes qui ont dit qu'ils étaient satisfaites, hein. Et on a reçu un texte, là, de gens qui ne sont pas du tout satisfaits, qui disent que, pour nous, c'est une défaite de ce qui s'est passé au niveau juridique. Une défaite parce que la condamnation est quand même symbolique, c'est moins qu'on puisse dire, quand on sait que tout ce qu'il y a eu comme victime, ça a eu pour unique but, cette décision de justice, de rassurer l'opinion publique, ça apparemment ils y sont arrivés. Il y a eu aussi le fait que cette défaite, c'est les lampistes comme d'habitude qui ont été lourdement condamnés. Eux ne demandent pas à ce que les lampistes soient condamnés encore plus, que le directeur en question soit condamné encore plus. Ils voudraient que soit posé le problème justement de ce type d'industrie. Et puis ils parlent justement dans leur texte, un truc intéressant, c'est le fait qu'il y a toujours une entreprise, il y a toujours un pôle là-bas à Toulouse qui est grave, en particulier la SNPE, la Société Nationale des Poudres et Explosifs, qui s'appelle aujourd'hui, qui a changé de nom, et qui appartient au groupe Safran, c'est la seule entreprise stratégique française à fabriquer les carburants des fusées spatiales et les missiles de force de frappe nucléaire. C'est quand même du lourd. Donc c'est des entreprises qui sont soumises d'ailleurs au secret défense et qui manipulent chaque jour des tonnes de produits toxiques et explosifs. On parlait tout à l'heure du nucléaire, mais là aussi c'est quand même la chimie, c'est quand même un sacré problème. C'est une défaite pour les gens qui se sont battus pendant 11 ans là-bas, pour dire qu'avec de telles productions, il y a une nouvelle catastrophe, ça peut arriver demain, c'est toujours possible. On peut même dire que c'est prévisible. Il n'y a pas de victoire pas prononcée, puisque le complexe militaro-industriel ne s'arrête pas, c'est moins qu'on puisse dire, il continue, y compris à Toulouse, y compris dans la banlieue de Toulouse. Donc, voilà, je pense que si ça vous intéresse, ce texte peut être vu, je pense, sur Internet. On va peut-être je vais proposer de le mettre sur le site d'OC Libertaire, puisqu'il est quand même intéressant de lire un petit peu, justement, une contestation où, effectivement, il y a eu mi-figue, mi-raisin, une condamnation. La chef d'entreprise à 3 ans de prison, dont un en semi-liberté, c'est effectivement rare. Bon, d'accord, mais le problème n'est pas là. Le problème, il aurait été condamné à 10 ans de prison, ça aurait rien changé du tout. Hein, ça aurait été plutôt le système qui se débarrasse d'une loi blanche ou d'une loi noire, comme on veut. Mais là, finalement, c'est pas du tout un problème individuel qu'il fallait poser. D'ailleurs, il y a des choses qui n'ont pas du tout été explicitées dans cette explosion, puisqu'il y a quand même un truc important à dire, c'est que juste avant l'explosion, quelques instants avant, il y a eu une coupure d'électricité, et on ignore aujourd'hui, 11 ans après, le pourquoi de cette coupure. Voilà, c'est quand même un peu étonnant. Il semblerait que, au niveau de l'analyse de ce qui s'est passé, il y a encore des zones d'ombre super, super importantes.
En fait, vous savez ce qu'est devenu ce pôle, ce site AZF?
Non.
Un cancéropole.
Oui, un cancéropole, oui, c'est vrai. Oui. Bon. Alors, tu as des choses... Vas-y.
Oui, j'étais en train de regarder mes notes et moi j'aurais aimé... Bon, ça va être un peu juste là dans le quart d'heure qui nous reste, on reviendra certainement dessus, mais j'aurais aimé revenir sur ce qui s'est passé à Marseille la semaine dernière, puisque vous avez bien évidemment, sauf si vous vivez dans une cave, vous avez la chance de ne pas avoir ni la télé, ni la radio, ni les journaux, vous avez certainement entendu parler de ce qui a été poliment nommé une évacuation par des riverains eux-mêmes d'un camp de Rome à côté de leur habitation. Alors bon, c'est assez délicat parce que étant donné que les informations sont très disparates, on a du mal à savoir exactement ce qui s'est passé. Il faut aller se renseigner à la source. On n'a pas forcément utilisé les bons ou les mauvais mots. Je crois quand même qu'on peut parler quasiment de pogrom. C'est-à-dire, ça commence à venir, mais bon, c'est quand même la forme que ça recouvre. Bon, il reste beaucoup de points à éclaircir, notamment sur l'incendie, sur les potentielles violences qui auraient eu, etc., etc. En tous les cas, il y a deux choses qui sont sûres. Il y a d'une part l'instrumentalisation à l'échelle locale et à l'échelle nationale de la présence des Roms à côté de ces habitations, puisque à l'intérieur de la classe politicienne et politicarde marseillaise, il y a, vous savez, cette fameuse députée PS, sénatrice PS, fourche.
Sénatrice, c'est maire d'arrondissement.
Voilà, maire d'arrondissement du 15e et du 16e, qui utilise tout ce qu'elle peut utiliser pour arriver à la mairie de Marseille et détrôner le mafieux Gaudin qui est là depuis longtemps, cette députée qui avait demandé à l'armée d'intervenir dans les quartiers contre les dealers et pour stopper les règlements de compte. Donc évidemment, il y a cette femme-là, cette sénatrice-là qui instrumentalise tout ce qu'elle peut. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait aussi également, c'est que depuis plusieurs jours, les habitants de cette cité, de ce quartier, de cet arrondissement, étaient allés se plaindre à la mairie d'arrondissement et demander l'évacuation du camp. Des habitations des Roms, en tous les cas, je sais pas comment appeler ça, quoi. Et que lorsqu'ils ont procédé à cette évacuation, les forces de police étaient présentes et ne sont pas intervenues. Dans le sens.
J'en même été dire que tout s'était bien passé.
Voilà, tout à fait. Ouais. Donc il y a visiblement du laxisme à géométrie variable, quoi. Bon, en tous les cas, sans faire de mauvais jugements, ce qui est sûr, c'est que cette situation-là, elle devait arriver et elle arrivera, avec certainement des violences à un moment ou un autre.
Bah, il y a eu ce week-end, je sais pas si t'as l'as su, mais il y a eu 700 personnes qui ont défilé dans la région lilloise.
D'accord.
Qui demandaient l'évacuation d'un camp de Roms.
À Villeurbanne, hein. Non, à Villeurbanne,
dans la banlieue de Lille. Alors, je sais plus.
Villeneuve-d'Ascq.
Et, avec les charbes tricolores d'élus, qui menaient la manifestation. Donc c'est parti, quoi. Je crois qu'effectivement, on risque d'avoir des pogroms. Alors, il faut dire aussi que, bon, j'ai, viens de savoir que les Roms s'organisent aussi, puisqu'ils ont mené une bagarre juridique concernant leur statut. On y reviendra, je crois, dans une émission, parce qu'on n'aura pas le temps ce soir, puisqu'ils ont toujours leur carnet, leur fameux carnet, là. Ils sont obligés aujourd'hui encore s'ils se déplacent plus de 6 mois par an, ils sont obligés d'avoir un carnet qui est visualisé et qui est tamponné par les mairies dans lesquelles ils passent. Et ils ont une mairie de rattachement, ils ont des problèmes impossible quasiment de voter avec un type de droite de circulation qu'ils ont. Mais plus gravement, ils vivent de toute façon une situation au niveau de l'emploi qui n'est pas possible, c'est-à-dire pas possible de trouver un emploi avec un tel type de carte. Bon, je crois qu'ils ont gagné, ils ont presque gagné au niveau du Conseil constitutionnel, et finalement leur statut, qui date d'un siècle, hein, de 1912, mmh. Il a été revu en 1969, mais en fait l'essentiel au niveau de ce qu'il est, c'est-à-dire de se déclarer dans tous les mairies dans lesquelles on passe, d'être, si on se déclare pas, eh bien c'est effectivement des amendes, ça peut être de la prison, etc. C'est toujours d'actualité, donc depuis un siècle. Et là, les gens du voyage se sont justement organisés. Il y a un forain qui a vraiment fait tout pour que sa communauté puisse se battre contre finalement cette exclusion.
Bah, de toute façon, oui, je crois que là, on a le résultat de ce qui se passe depuis 5 ans, depuis 10 ans même, presque depuis toujours, on serait tenté de dire, mais depuis plus de 2 mois quand même, où les déclarations du ministre de l'Intérieur, avec son ego surdimensionné et son ambition encore plus grande que lui, évidemment, a dit que l'urgence aujourd'hui, c'était le démantèlement de ces campements illicites, qui était un véritable défi au vivre ensemble, et voilà, quoi, effectivement, on récolte bien évidemment ce qu'on sème, quoi. Mais moi, je voudrais aller plus loin, c'est-à-dire que depuis bientôt 10 ans, on parle de ces évacuations qui se sont déroulées sans heurts à chaque fois, ou sans problème, ou sans violence. Alors, sans violence, sans heurts, sans problème, ça veut dire que pour le moment, les Roms ont accepté de se laisser taper sur la gueule en général, quand même, parce que même vous imaginez, quand on débarque à 6h du matin dans un camp, dans un rassemblement, il y a toujours des problèmes, des résistances, des cris, des pleurs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, face à l'hostilité généralisée et à l'agressivité et à la déclaration de guerre et à l'ouverture de la chasse aux Roms et des pogroms donc qui vient d'être tacitement toléré par ce qui s'est passé à Marseille, faut que les Roms ils arrêtent de jouer la carte juridique et qu'ils s'auto-organisent pour se défendre, quoi, parce que effectivement à un moment il va y en avoir des heures et à un moment il va y en avoir des conséquences tragiques, quoi. D'accord. Et la déshumanisation et la diabolisation et la transformation des Roms en sous-hommes avec tout le baratin qu'il peut y avoir. Il y avait encore une magnifique double page dans le Figaro en traitant des parents Roms qui avaient des enfants qui volaient des téléphones portables d'esclavagistes et de réseaux mafieux. Alors quand on lisait un petit peu dans l'encadré, on s'apercevait que le préjudice et le bénéfice de cette mafia qui faisait vivre à peu près 100 personnes était de 100 000 euros. Putain, là, la gueule de la mafia, 1 000 euros par personne. Hein, renseignez-vous du côté de la Camorra, vous verrez, c'est pas très bien payé par rapport à ce qui se passe réellement. Enfin bon, trêve de plaisanterie, il y a effectivement là quelque chose qui s'est passé à Marseille qui mérite, et dans lequel est nécessaire, bien sûr, je le dis encore, d'avoir véritablement toutes les informations. Mais en tous les cas, on a quand même le sentiment qu'on a passé une étape et que demain, peut-être qu'il va se passer des choses beaucoup plus tragiques, quoi. Donc, d'autant plus qu'il y a vraiment cette hypocrisie dégueulasse et lamentable, puisque vous le savez, ou si vous le savez pas, on vous le répète, cette émission elle est faite à Reims, et pendant 15 jours là, même 3 semaines, puisque ça continue encore, dans toute la Champagne-Ardenne, dans toute l'Aube et dans toute la Marne, il y a eu les vendanges, et là il n'y a pas eu de problème pour voir des gens du voyage, il n'y a pas eu de problème pour qu'ils s'installent effectivement avec leur caravane, il n'y a pas eu de problème pour que les forains viennent, parce qu'ils viennent se faire exploiter dans des conditions de merde, et effectivement...
Et pourtant, dans un environnement vraiment droitier, comme c'est pas permis, c'est hard, vraiment, c'est notre région marnaise, au niveau de, justement...
Ce sont des Versaillais, hein, totalement. Mais voilà, quoi... on verra bien comment ça va évoluer, mais voilà, petit à petit, le silence des pantoufles et le bruit des bottes, et on en arrive à ça.
On va peut-être faire une pause musicale, là, si notre technicien veut bien.
Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, planète et la tête des hommes. Car c'est là, hey, car c'est là, car c'est là, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. J'en reviens sur le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, les vendredis. Spécial dédicace à l'homme qu'on appelle Tapache.
Je vais pour péter, pour péter comme un petit bébé. Toute la journée, tu ne penses pas, tu ne fais que planter. Sur la pendule, t'as les deux yeux complètement rivés. Tu te fais tellement, tu te fais comme une autre idée.
Planter, il y a qu'à la fin, j'aurais que de te faire sauter.
Je disais donc, tu peux couper Raymond des Duplos, mec.
Ouais, voilà. Et donc, on vous a parlé, de, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on vous parle de Sodi Médical à Plancy-l'Abbaye. Cette usine où les salariés n'étaient pas payés depuis plus de... ça fait 12 mois, là. Et donc, la société allemande qui dirige en fait cette cette boîte vient de gagner sur toute la ligne, puisque bien que condamnée X fois, elle n'a pas tenu... Elle se fout de la justice, quoi. Mais bah, ils ont gagné sur un autre terrain. Ils ont gagné sur le fait que la société a été liquidée. Tout ça malgré les promesses de François Hollande à la foire de Châlons, malgré les promesses de Montebourg dans le courant du mois de septembre aussi, et malgré la rencontre avec Taubira qui avait dit qu'elle allait tout faire pour que la boîte ne soit pas liquidée et qu'elle allait faire pression sur ses procureurs pour que tout soit fait, pour que la boîte continue d'exister, eh bien, le tribunal de Troyes avait décidé la liquidation judiciaire. Il y avait une saisine de la cour d'appel qui a confirmé la liquidation de cette société. Voilà. Donc, on voit à quoi ça sert, tout ça, quoi.
On va quand même avoir une petite pensée pour Jean-Noël, s'il nous écoute, ça se trouve. Et puis on va avoir aussi une deuxième pensée pour un homme qui, à Chalon-sur-Saône, s'est pris 500 euros d'amende pour avoir refusé de siéger dans un tribunal d'assises, puisque il a été convoqué. Vous le savez, les jurés sont tirés au sort et leur convocation est obligatoire sans motif valable. Et cet homme, en fait, quand il est arrivé dans le tribunal, a refusé de prêter serment en déclarant qu'il ne se disait pas sentir capable de juger une personne, de juger autrui, puisqu'il estimait qu'il ne pouvait pas avoir à juger des raisons qui poussent un individu à faire des choses que lui-même pourrait faire. Résultat, voilà, article 280 du code pénal, 500 euros d'amende, c'est une amende qui peut monter jusqu'à 3750 euros. Si par miracle, cet individu de Chalon-sur-Saône nous écoutait et qu'il avait besoin de sous pour payer son amende, on la prend sans aucun problème. Hein. Il écrit à Allégregor, boîte postale 1213 51058 Reims Sélex.
Les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
aucun inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, c'est l'irrévérent, chaque semaine c'est du Goligari Montpellier, Ganassil à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. C'est aussi sur le site OC Libertaire et puis sur le blog Le Chat Noir 51. L'irrévérent, une parole narcissique communiste.